Décryptage. François Ballarin.
Du 30 novembre au 12 décembre, Dubaï accueille la 28e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Avant même le coup d'envoi de cette COP, des voix s'élèvent, dénoncent le choix qualifié de désastreux des Émirats Arabes Unis pour organiser ce rendez-vous chez un des plus grands producteurs de pétrole du monde, COP 28 de Dubaï. Un échec annoncé, c'est le sujet de décryptage ce soir. Et pour faire le point sur ces négociations à venir, la possibilité d'accoucher sur un accord, pourquoi pas, ambitieux, notre invité ce soir est Michel Taube. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes éditorialiste, fondateur et directeur de publication du site Opinion Internationale.
Parfait.
Pour l'instant, l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle est compromis. Pendant ce temps, les catastrophes climatiques se multiplient, les records de température sont sans cesse battus, les réfugiés climatiques n'ont jamais été aussi nombreux. Écoutez Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
L'humanité a le choix, coopérer ou périr. Il s'agit soit d'un pacte de solidarité, soit d'un pacte de suicide collectif. Nous sommes dans un combat pour nos vies et nous perdons. Nous sommes sur l'autoroute de l'enfer climatique avec encore un pied sur l'accélérateur.
Les sorties, les punchlines bien connues du secrétaire général de l'ONU, en l'occurrence en ouverture de la COP 27 de Sharm el-Sheikh, pas de quoi nous remonter le moral, on se demande bien ce qu'il va dire en ouverture de la COP 28.
Ouais, il me fait penser à Jacques Chirac qui a déjà plus de 30 ans disait la planète brûle et on tourne le regard à notre droite. Oui, on a déjà beaucoup entendu ça et on risque de le réentendre dans les semaines qui viennent.
Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même le coup d'envoi de cette COP 28, Michel Taube, on est sur un constat d'échec.
Le risque d'échec est important, mais j'ai envie de vous dire, c'est le cas depuis de nombreuses COP. La COP, celle qui a peut-être le moins mal marché, c'est la COP de Paris, la COP 21.
On y croyait, il y avait de l'espoir.
Les accords de Paris. Non, mais il y a même eu un accord, ouais. Un accord historique qui a été arraché à dernière minute par le président François Hollande, en lien évidemment avec Obama et quelques autres dirigeants de la planète. Mais c'était il y a 8 ans. Or, les accords de Paris ne sont toujours pas mis en œuvre. L'objectif, effectivement, historique, stratégique, vital, de ne pas dépasser les 1,5 degrés de réchauffement climatique, est très loin d'être atteint. Donc j'ai envie de dire, l'échec annoncé de la COP 28, c'est plus l'échec de toutes les COP qui se sont succédées ces dernières années. La COP de Glasgow, qui avait été un échec également. Sharm el-Sheikh, vous l'avez cité. Donc effectivement, je pense que le rendez-vous de Dubaï est déjà fortement critiqué. On va certainement voir pourquoi plus en détail par rapport au choix même de Dubaï et des Émirats. Mais en soi, on a tout de même l'impression que ce système de grandes messes internationales dont on n'ose même pas imaginer le coût carbone qu'il va représenter en déplacement pour tous les participants de la planète, mais le système même de ces grands sommets internationaux prête encore une fois à interrogation quant à son efficacité.
Ça
pour
fonctionne
inverser
pas.
La courbe. Ben, écoutez, ça, je pense que ça fonctionne sur un point. C'est celui des créations de dynamiques internationales sectorielles ou par type d'acteurs. On n'a jamais vu autant de coalitions thématiques ou régionales se constituer pour lutter contre certaines parties du réchauffement climatique. Vous avez une coalition solaire, vous avez, moi je reviens de Brazzaville, où s'est tenu le sommet des trois bassins des forêts tropicales et de la déforestation tenu donc à Brazzaville au Congo, Brazzaville, en présence de sommités du monde entier et qui crée une coalition mondiale contre la déforestation. Vous avez plein de coalitions qui se sont mises en place. Vous avez des coalitions sur les questions de financement. Vous avez des coalitions par secteur. Bon, ça, c'est très bien. Ça permet de mettre en musique un peu tous les acteurs, privés, publics, associatifs, entreprises, forces morales et spirituelles. Tout le monde veut un peu se mobiliser, prendre sa part. Mais au final, les acteurs clés, qui sont les États, et auxquels s'adresse un petit peu l'ensemble des membres de la planète, eux ont du mal, effectivement, à prendre la mesure en termes d'action concrète, en termes de renversement des tendances climatiques profondes, de ce qui est en train d'arriver. Et on le voit de COP en COP, avec effectivement des déclarations finales qui sont de plus en plus pauvres en engagement concret, et qui, au-delà des grands mots, on a entendu M. Guterres, on pourrait en entendre beaucoup d'autres, ne donnent pas de résultats très tangibles.
Et Michel Taube, sur l'organisation de cette COP 28 à Dubaï, écoutez ce qu'en dit la climatologue suisse, membre du GIEC, Sonia Senevirat, elle était, il y a quelques jours, invitée de nos confrères de TV5 Monde.
Ça semble un petit peu ironique quand même d'organiser, disons, une conférence...
Ironique.
Oui, ironique. Enfin, c'est... certaines personnes ont dit que ce serait un peu comme si on faisait une conférence sur la diminution des feux de forêt au milieu des pyromanes. Enfin, c'est, enfin, ouais, voilà. C'est quand même un petit peu... on sait forcément que les pays exportateurs de pétrole, à première vue, ne sont pas en train de prendre vraiment des engagements réels pour diminuer leurs exportations. Ils ne sont pas vraiment dans leur intérêt de diminuer cette consommation du pétrole. Il semble que cette conférence climatique annuelle est un peu infiltrée, en fait, par des lobbies pétroliers. Après, si cette COP, cette année, donne des résultats vraiment tangibles, disons, je critiquerai certainement pas. Je pense que c'est la chance de démontrer que ce modèle-là peut fonctionner.
Voilà, organiser cette COP chez l'un des plus grands pays producteurs de pétrole au monde, ça paraît très paradoxal quand même.
Alors effectivement, le sultan Al-Jaber qui préside à cette COP 28, il est en même temps le président de la 11e compagnie pétrolière et gazière dans le monde.
C'est un peu gênant.
Oui, oui et non, j'ai envie de dire. Oui, oui. Et non, parce que finalement, la lutte contre le réchauffement climatique, je pense que c'est surtout l'affaire des pollueurs. C'est leur responsabilité de s'engager dans un changement de modèle économique, dans une transition énergétique dont nous avons tous besoin. C'est leur responsabilité de le faire, ou en tous les cas, aux États de le leur imposer.
Ils font partie du problème, ils font partie de la solution.
Mais évidemment, on ne va pas demander à des personnes déjà vertueuses d'être plus vertueuses. C'est ceux qui ne le sont pas qui doivent changer d'attitude. Donc, en soi, cela ne m'étonne pas. C'est comme les pays du Sud qui demandent, effectivement, qui considèrent... Ils ont raison, qu'ils sont parmi les moins pollueurs de la planète.
On va y venir.
Et qui voudraient agir sans le soutien des principaux pollueurs qu'ils sont, qui sont en fait les pays occidentaux, qui sont la Chine, qui sont les grandes puissances économiques, mais qui sont elles-mêmes les pollueurs. Donc en soi, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange davantage, c'est qu'effectivement, à Dubaï, là, vous avez un des champions des producteurs d'énergie fossile. Et c'est vrai qu'une des causes principales du réchauffement climatique, ça, c'est loin d'être la seule, hein. Il y a aussi des problèmes sur l'agriculture, avec les vaches, notamment des bovins, qui contribuent de façon considérable au réchauffement climatique. Mais évidemment, les énergies fossiles font partie du problème. Bref, il faut sortir au plus vite d'une économie mondiale organisée autour des énergies fossiles. Et là, franchement, on ne va pas être naïf. Il est évident qu'un des acteurs clés ou les acteurs clés de ces dites énergies fossiles ne vont pas demain matin prendre l'engagement de s'en désengager, bref, de se ruiner, j'ai envie de dire, sans des contreparties et sans avoir le temps de se réorganiser. Donc là, effectivement, il y a un véritable problème. Et c'est d'ailleurs pourquoi les autorités des Émirats Arabes Unis ont décidé de mettre le paquet sur les énergies renouvelables, c'est-à-dire non pas arrêter les énergies fossiles, mais développer d'autres énergies, les énergies renouvelables, en complément de ces économie fossile. Et là, effectivement, ils ont raison parce qu'il y a un avenir pour les énergies renouvelables.
Et ils investissent des milliards d'euros dans les énergies renouvelables. Ils ont une agence, une entreprise qui gère ces énergies renouvelables. Ils auraient pu nommer le patron de cette agence plutôt que celui de la compagnie pétrolière.
Tout à fait. Mais encore une fois, il ne faut pas être naïf. Ce sont des acteurs économiques stratégiques. Je veux dire, on peut prendre une compagnie d'origine française parce qu'elle est, je pense, de moins en moins française dans son capital et dans sa structure de gouvernance qui est Total. Bah, Total investit beaucoup également dans les énergies renouvelables. Et ils le font très sérieusement. Ils le font avec des moyens considérables. Et c'est tant mieux, j'ai envie de dire, pour la planète. Mais est-ce que pour autant, Total se désengage de la production de pétrole et de gaz? Non, malheureusement non. Parce que c'est son business. C'est parce que les États n'ont pas réussi à imposer en termes réglementaires et législatifs à ces entreprises polluantes des contraintes plus importantes. Donc, j'ai envie de dire, effectivement, que la COP se tienne aux Émirats Arabes Unis, ça, évidemment que c'est paradoxal. Après, je pense encore une fois que c'est de la responsabilité des pollueurs de prendre des actions très très fortes. Et puis, j'aimerais aussi ajouter autre chose, c'est que de la part des Émirats Arabes Unis, parce que ça n'est pas n'importe quel pays dans les pays du Golfe, c'est un pays qui est quand même très engagé dans des efforts de modernisation, de modernité, d'ouverture à l'autre. On pourrait parler sur le plan spirituel de la visite du pape il n'y a pas longtemps aux Émirats Arabes Unis. Il y a une stratégie de la part des Émirats Arabes Unis qui est très intéressante, qui est nouvelle, belle dans son histoire et qu'il faut saluer. Donc, je pense qu'il ne faut pas rejeter d'emblée cette COP 28 et on peut espérer enfin que, vu les moyens considérables dont dispose ce pays et ses alliés, ils pourront peut-être investir massivement dans un des enjeux clés de cette COP, qui est celle du financement des efforts pour sortir, pour réduire le réchauffement climatique. Parce que, au final, il y a des enjeux de moyens, des enjeux d'investissement, et là, peut-être qu'ils ont les moyens de le faire un peu plus que d'autres pays.
Alors, Michel Taube, certains veulent carrément boycotter cette COP. C'était le sens de l'appel lancé en septembre dans une tribune au Monde par 180 responsables d'entreprises françaises. Donc, ils appellent au boycott de la COP 28. Pour eux, les lobbyistes des énergies carbonées ont fait main basse sur les conférences sur le climat. C'est réellement le cas, selon vous, on en est là? C'est ce qui va se dire dans les couloirs de cette COP 28?
Moi, j'ai envie de dire, les absents ont toujours tort. Je pense que la politique de la chaise vide, d'abord, ne tient jamais très longtemps. Encore une fois, je pense que, moi, c'est ma conviction d'éditorialiste, la bonne ligne, c'est d'aller à Dubaï en n'étant pas dupe des résultats qui vont en sortir. Je pense qu'il est bon d'essayer d'arracher quelques accords supplémentaires. Par exemple, à Brazzaville, pour le sommet des trois bassins forestiers. Les trois bassins forestiers, c'est le bassin du Congo, c'est le bassin de l'Amazonie et le bassin du Mékong, qui regroupe plus de la moitié de la biodiversité de la planète. Donc c'était un sommet sud-sud, c'était un sommet du sud global, avec le soutien des Nations Unies, avec le soutien de la France et de nombreux pays. La Chine était présente, il y avait de très très fortes délégations du monde entier. Mais par exemple, ce sommet donc, de la biodiversité de la forêt a demandé à ce que, à l'initiative du président Sassou Nguesso, à ce que à Dubaï soit adoptée l'idée d'une décennie de l'afforestation et du reboisement, et qu'une des décisions principales de la COP 28 soit d'investir massivement dans l'afforestation, dans le reboisement. Le président Lula, qui a fait un message très fort et qui sera certainement présent à Dubaï, il est encore en convalescence suite à une opération qu'il a eue il y a un mois, mais le président Lula a déjà pris, depuis qu'il a été réélu président du Brésil, des mesures très fortes pour stopper la déforestation massive que son prédécesseur Bolsonaro avait entreprise dans l'Amazonie. Donc il faut espérer que sur certains leviers d'action extrêmement puissants qui permettraient peut-être, espérons, de freiner le réchauffement climatique, notamment sur les questions forestières, il y ait à Dubaï des décisions très, très fortes, de même sur les énergies renouvelables. L'Inde a créé une coalition solaire pour développer l'énergie solaire dans le monde entier. Là, peut-être qu'il va y avoir aussi des progrès pris à Dubaï. Donc, je pense que le choix du boycott n'est vraiment pas une bonne idée. Après, il ne faut pas être dupe, il ne faut pas attendre la lune, il ne faut pas attendre à ce que les pays du Golfe annoncent qu'ils vont sortir des énergies fossiles. Évidemment non, mais il y a peut-être des petites accroches à obtenir, des petits gains à obtenir à cette occasion-là.
Et vous parliez de ce rendez-vous de Brazzaville, rendez-vous préparatoire à cette COP 28. Autre rendez-vous dimanche où Sultan Al-Jaber l'a encore martelé, la 28e conférence climat des Nations Unies doit s'ouvrir au secteur privé. On l'écoute.
We have no choice. But to do it.
Comme je l'ai dit à maintes reprises, l'inclusivité est un principe fondamental de la COP 28. Cela inclut l'ouverture au secteur privé à une échelle que nous n'avons jamais vue auparavant. Les décideurs du secteur financier seront avec nous à la COP 28 à Dubaï. Des personnalités du monde de la technologie seront avec nous à la COP 28 à Dubaï. Des dirigeants de tous les secteurs industriels importants de l'économie mondiale seront présents à la COP 28 à Dubaï. Nous devons inclure tout le monde pour avancer ensemble.
Voilà, pour Sultan Al-Jaber, donc réussir cette transition énergétique mondiale, apporter les milliards de dollars qui manquent, passe par une plus grande ouverture au secteur privé. En quoi la présence de ces grands groupes peut-elle être bénéfique?
Écoutez, je pense qu'elle peut être bénéfique dans la mesure où, encore une fois, on n'arrivera pas à éviter la catastrophe de ce réchauffement climatique si tout le monde n'y met pas les moyens, et notamment ceux qui en ont. Donc effectivement, il y a les grandes puissances occidentales, il y a la Chine, il y a les pays du Golfe qui ont des moyens considérables, mais il y a aussi le secteur privé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait très bien, une entreprise comme Twitter, comme Google, comme les grandes compagnies industrielles pèsent très très lourd dans le destin des hommes. Donc effectivement, il faut qu'elles participent. Mais alors, ce qui est amusant, tout de même, c'est que beaucoup de ces entreprises ont publié un appel, 131 entreprises il y a quelques jours, qui dit un peu le contraire de ce que dit le sultan Al-Jaber. C'est-à-dire, le sultan Al-Jaber demande à ces entreprises de venir à Dubaï. Elles vont venir, c'est certain. Mais beaucoup d'entre elles ont publié un appel. Et il y a des très grandes marques. Hein. Je ne vais pas leur faire de la publicité, mais c'est des marques que nous tous connaissons en tant que consommateurs de tous les jours. Elles-mêmes disent... On ne va pas pouvoir tenir nos engagements climatiques sans le soutien des États. Donc, elles-mêmes sollicitent, dans un appel, encore une fois, qu'elles ont publié le lundi 23 octobre, 131 grandes entreprises multinationales, elles demandent le soutien des États.
Et en même temps, est-ce qu'il ne faudrait pas en contraindre certaines, notamment les compagnies pétrolières ? On pense, je prends l'exemple de Shell et BP, qui se sont essayés aux énergies renouvelables et qui ont fait marche arrière. Alors, pour un manque de rentabilité, les actionnaires n'étaient pas contents, réduction des dividendes, donc marche arrière, est-ce qu'il ne faudrait pas les contraindre ?
Ah, moi, je suis totalement pour. Je pense que, vu la gravité de la situation internationale, vu les désastres auxquels nous faisons face, vu les dégâts que cela occasionne sur le plan humain et sur le plan économique, on n'y arrivera pas sans un retour du politique. C'est pas possible autrement. Il y a trop d'intérêts contradictoires, il y a trop d'intérêts nationaux concurrents sans un retour du politique. Le problème, c'est qu'on est dans un concert des nations où, effectivement, vous avez des guéguerres, pour ne pas dire plus, entre des puissances, des États, ce qui fait que, vous avez par exemple la méthode chinoise, qui est quand même très autoritaire et qui a consisté à miser à fond sur les panneaux solaires. Donc le monde entier maintenant dépend de la Chine pour accéder à ce marché-là. Vous avez la question évidemment des voitures électriques comme alternative aux voitures à consommation d'énergie fossile. Mais là aussi, il y a des problèmes de dépendance des marchés. On n'y arrivera pas sans un retour du politique. Le problème, c'est que le politique... Ça revient aux Nations Unies, à des accords multilatéraux qui sont très, très difficiles à obtenir lorsqu'il s'agit de prendre des engagements concrets. Et on revient au début de notre conversation. Les accords de Paris 2015, engagement à l'époque présenté comme extraordinaire, on va maintenir à 1,5 degré le réchauffement climatique. 8 ans après, on n'y arrive toujours pas. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'un retour de politique, on a besoin de contraintes, on a besoin effectivement que le politique fasse des choix stratégiques, mais en même temps, on voit bien qu'il n'est pas au rendez-vous, qu'il n'est pas capable de s'entendre, et ça donne des COP successives un peu décevantes.
Michel Taube, autre grande question de cette COP 28, c'était aussi celle de la COP 27, le financement de la lutte contre le réchauffement climatique et les 100 milliards de dollars par an promis aux pays en développement. Les anciennes promesses doivent être tenues, y compris celles-ci faites il y a plus de 10 ans, c'est ce qu'a déclaré Sultan Al-Jaber dimanche. Comment expliquer que cette promesse n'ait pas été tenue ?
Parce que c'est ce qui est le plus dur à obtenir, c'est l'argent. Et puis les moyens sont considérables. 100 milliards de dollars par an, ce sont quand même des sommes mirobolantes. La France en la matière a fait des efforts importants. Emmanuel Macron a accueilli déjà 2 ou 3 reprises à Paris un sommet mondial pour un nouveau pacte financier mondial, auquel ont d'ailleurs participé la plupart des grands États de la planète, du Nord et du Sud, et notamment les pays du Golfe. Mais on voit bien qu'on n'arrive pas effectivement à dégager cette somme considérable dont ont surtout besoin les pays du Sud pour se protéger des conséquences du réchauffement climatique. Et encore une fois, c'est là aussi, il va falloir qu'il y ait... Le système international repose sur des accords et la libre volonté des parties. Et manifestement, tel n'est pas le cas. Chacun a des agendas différents. Donc je pense que là où il risque d'y avoir une grande déception à Dubaï, c'est sur ces histoires de financement. Peut-être vont-ils décider d'investir tous ensemble massivement sur certains leviers de développement, notamment en matière d'énergie renouvelable. Mais quant à donner aux pays du Sud les moyens de compenser les méfaits donc, qu'ils subissent du réchauffement climatique engendré par les puissances les plus grandes, je pense que ça va être très très difficile de l'obtenir.
Michel Taube, ce sera le mot de la fin très rapidement. Est-ce qu'il faut voir cette COP comme une opération de soft power, d'influence ou de greenwashing sous l'égide de l'ONU ?
De soft power, c'est certain. De greenwashing, j'espère que non. Je pense qu'il y aura des engagements concrets. Après, encore une fois, il ne faut pas être dupe. Il ne faut pas partir en se disant que ça va être la révolution. Je pense que ce sera une COP de plus. Et très rapidement, il faudra préparer la suivante. Parce que je vois mal M. Guterres, aussi critique soit-il, renoncer à ce rendez-vous annuel très important pour la communauté internationale.
Merci, Michel Taube, d'avoir accepté notre invitation ce soir sur RFI. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur du publication du site Opinion Internationale. Merci à Claude Battista qui réalisait cette émission ce soir.